I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors la notion de sexualité, déjà elle débute dès les premiers jours de notre vie.
Et là on a essayé de lui montrer qu'il y avait un cadre pour parler de tout ça.
Écouter ses curiosités, ses angoisses, et puis l'aider à comprendre et à poser simplement des mots dessus.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez-vous.
Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Raphaël ?
Alors Mathilde, ce qui m'amène, c'est que je me pose des questions sur la manière dont je parle, j'évoque la sexualité avec mes enfants.
Mm-hmm. Ils ont quel âge, vos enfants ?
Alors, j'ai une fille de 14 ans et un fils de 10 ans.
Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que pour vous, la sexualité, Raphaël ?
C'est assez large, en fait. Ouais. Ça commence et ça a commencé par... des questions sur leur corps, sur l'évolution de leur corps, sur la fonction de certaines parties de leur corps. Et, et puis,
Ils avaient quel âge à ce moment-là ?
Entre 6 et 8 ans, j'ai du mal à vous dire exactement l'âge précis. Entre 6 et 8 ans, je pense que les premières questions un peu précises sont arrivées à ce moment-là.
Mmh. Alors, comment vous avez géré ces premières questions ?
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'ai essayé de le faire le plus simplement possible, en décrivant de manière assez neutre les choses et donc sans aller trop profondément dans l'explication.
Est-ce que vous vous souvenez un peu plus précisément quelles étaient les questions ?
Oui, il y a eu des questions. Alors, ça a commencé évidemment par ma fille qui était en premier. Il y a eu des questions sur la poitrine. Quel âge aurait-elle une poitrine comme maman ? Est-ce qu'elle pouvait ne pas en avoir ou en avoir une différente ? La puberté, le fait de grandir et de découvrir que son corps change. Donc il y a eu toutes ces questions-là qui sont arrivées petit à petit et sur lesquelles on a dû répondre progressivement.
Mmh. Est-ce que vous vous souvenez du coup, quelles réponses vous avez données ?
Alors, on a donné des réponses, je dirais, assez conventionnelles au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, elle aurait une poitrine et que plus tard, elle aurait l'occasion de pouvoir en parler dès que ça arriverait, qu'on sera à son écoute. En fait, on a surtout essayé de lui dire qu'elle pouvait nous en parler dès qu'elle aurait une question et puis qu'on se tenait à sa disposition, que c'était tout à fait naturel qu'elle ait des questions. Et puis, en fait, l'idée était surtout d'avoir une porte toujours ouverte et puis qu'elle sentait que ce sujet était un sujet qu'elle pouvait aborder avec ses parents.
Est-ce que ça a été différent pour votre fils ? Est-ce qu'il y a eu d'autres types de questions ?
Oui, peut-être moins de questions de ce type-là sur le corps, etc. Je dirais que c'était plus sous forme de blagues, mon fils. Plutôt autour de l'humour, des blagues qu'il faisait avec ses copains très rapidement. Plus rapidement, d'ailleurs. Et là, la discussion était moins sur l'évolution de son corps, mais plus pour lui expliquer. Là, à l'inverse, c'était plus pour le contenir, pour ne pas aller trop loin dans des blagues en public, etc., et que c'était plutôt quelque chose qu'il devait voir avec nous directement, plutôt que d'évoquer ça dans une cour d'école, etc., avec sa maîtresse, des choses comme ça. Donc, lui était plutôt sans filtre. Et là, on a essayé de lui montrer qu'il y avait un cadre pour parler de tout ça. Deux comportements assez différents, deux caractères assez différents.
Quand vous dites sans filtre, sur quel type de choses pouvaient porter ces blagues?
Alors très concrètement, sa première érection devant la télé, où là il nous en parle absolument sans filtre, donc ça c'est très bien. Alors on est un peu déstabilisé, hein, parce que quand ça arrive, qu'il nous dit ça, il comprend pas ce qui se passe, et donc alors ça se rit, tout le monde rit, et donc on essaie de démystifier le moment et de lui expliquer ce qui se passe, parce que lui on voit bien que ça l'interpelle. Et donc c'est ce type d'exemple en fait. C'est une réaction très spontanée, très naturelle qu'il a. Il voit quelque chose qui se passe dans son corps. Il a une réaction émotionnelle et il en parle assez naturellement.
Là, vous dites, voilà, ces questions à peu près entre 6 et 8 ans pour votre fille et votre fils. Est-ce qu'avant, il y a eu des questions ou s'il n'y a pas eu de questions, est-ce que déjà vous aviez parlé de sexualité ou du corps ou, voilà, comment vous aviez introduit ces notions-là? Parce que là, vous dites finalement qu'assez spontanément, vos enfants vous en ont parlé. Alors, je me dis, j'imagine que peut-être vous aviez fait des choses avant.
Oui, enfin, alors j'ai ma grand-mère, qui en serait grand-mère des enfants, qui... par habitude, offre un livre sur la reproduction. Alors, peut-être pas la reproduction, je dirais, mais en tout cas, le corps humain. Alors, j'ai du mal à dire quel âge exactement, mais dans ces eaux-là, 6 ans, etc., 6-7 ans, je crois. Et puis, pas d'intérêt tout de suite pour le livre, à vrai dire. Et puis, au fur et à mesure, ils ont commencé à le feuilleter. Enfin, on a vu qu'ils le sortaient. Donc, ça a été une partie de ce qu'on a fait avant, mais...
Donc, c'est-à-dire de parler du corps à partir d'un livre.
Exactement, de parler du corps à partir d'un livre, de parler des différences entre l'homme et la femme à partir d'un livre. Et puis, il n'y a pas eu, comme je disais, il n'y a pas eu un intérêt direct à ce sujet-là, parce qu'à cet âge-là, il y a quand même les jouets avant tout. Mais en fait, ils y sont revenus. Le livre était étant dans la chambre, ils sont revenus. Ils ont posé des questions progressivement par rapport à ça. Mon fils l'a lu, lui, sans poser de questions au départ. Ma fille a très vite posé des questions. Sauf que ça, ça a été une action. Et puis après, je dirais que l'autre chose qu'on a faite, c'est... Je dirais qu'on est une famille, on n'est pas super pudique, mais les enfants en premier, en fait. Et donc, naturellement, en fait, le corps n'a jamais été un sujet de tabou. Et je ne sais pas si ça a joué ou pas, mais c'est vrai que les questions sont venues plutôt d'eux, assez spontanément, et encore aujourd'hui.
C'est-à-dire que vous et votre femme, vous pouvez vous montrer nus devant vos enfants, ou être ensemble dans la salle de bain, par exemple?
Exactement, plutôt dans la salle de bain, plutôt que dans la maison, mais dans la salle de bain, la porte n'est pas forcément fermée. Et alors, ça pose des questions, parce qu'aujourd'hui, j'essaie d'inverser la tendance et montrer à ma fille que, grandissant, il faut qu'elle crée son intimité aussi, parce que ce n'était pas naturel. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on a fait sans trop s'en rendre compte au départ.
Ok. En tout cas, souvent, dans le développement des enfants, il y a un âge un peu critique qui est autour de 3-4 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des questions? C'est parfois l'âge où ils commencent à demander comment on fait les bébés, par exemple.
Alors oui, ils l'ont demandé. Et c'est vrai qu'à 3-4 ans, on est assez mal à l'aise pour répondre à cette question. Parce qu'en fait, on n'a pas les mots, tout simplement. Parce qu'en fait, le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser pour répondre à cette question, bah, en fait, il n'y a aucun des mots qu'ils ont dans leur vocabulaire.
Ce ne sont que des mots d'adultes.
C'est que des mots d'adultes. Donc là, c'est vrai que ce n'était pas facile. On avait un peu botté en touche. Enfin, en tout cas, botté en touche. En tout cas, on a donné des parties de réponses. C'est l'amour entre un homme et une femme. On voit bien que ça ne les satisfait pas totalement, qu'ils ne comprennent pas tout, mais on ne sait pas trop comment s'en sortir à ce moment-là. C'est revenu un peu plus tard, avec des questions plus précises. On est sur ce sujet-là particulièrement, au fur et à mesure. Il y a aussi la scolarité qui fait qu'ils abordent le sujet de manière différente. Là, on a essayé d'accompagner ces moments-là entre ce qui se passe à l'école, est-ce qu'ils avaient des questions. Donc à 3-4 ans, il y a eu ça. Puis à 3-4 ans, il y a eu les premiers moments de découverte du corps de l'enfant. On a eu l'impression qu'ils découvraient leur corps, qu'ils avaient des moments où un rapport au corps... se toucher, etc. Et là aussi, on se demande comment réagir, on n'ose pas trop intervenir, d'ailleurs, on ne l'a pas fait.
C'est un moment plus particulier. Vous avez pu voir, par exemple, que vos enfants se touchaient, donc vous pouvez avoir une activité masturbatoire.
Oui, exactement, typiquement, dans la voiture, dans le siège, tout seul, et donc là, dans ces cas-là, on a tendance à fermer les yeux, enfin, à ne pas regarder, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette situation, donc on la laisse passer.
Ça vous a mis mal à l'aise, vous, d'observer ça chez vos enfants?
Je dirais pas que ça m'a mis mal à l'aise. Je dirais qu'on s'est posé la question avec mon épouse de qu'est-ce qu'on fait. Bon, rapidement, on s'est dit qu'on allait rien faire parce qu'en fait, on savait pas trop comment agir, donc on a absolument rien fait et on a laissé passer ces moments-là qui n'ont pas duré non plus. Enfin, vraiment, c'était cette période 3-4 ans, hein, même si c'est un peu lointain, donc j'ai du mal à remettre les dates, mais oui, on a laissé passer ces moments.
Alors en plus, vous avez une fille aînée et un fils. Après, est-ce qu'il y a pu y avoir des jeux aussi autour du corps, de la découverte du corps de l'autre, de voir voilà, que pour un petit frère, bah, sa grande sœur a un corps différent, et puis pareil pour la grande sœur, de voir que son petit frère a un corps différent?
Je ne sais pas s'il y a eu des jeux. En tout cas, ils en ont parlé très vite ensemble. Bon, ils sont assez fusionnels, assez proches, donc ils ont vraiment parlé ensemble. Je sais qu'il lui a souvent posé des questions.
Vous savez quel genre de questions?
Oui, ben sur... Sur le corps des femmes, justement, sur... Alors, je n'ai pas les questions précises, parce que c'est leur jardin secret, mais je sais qu'ils abordent souvent des questions avec elles, de l'ordre... Pas que de la sexualité au sens très large, même du comportement qu'il peut avoir, parce qu'elle lui dit souvent « Arrête tes blagues, t'es un obsédé », enfin, des choses comme ça. Et donc, naturellement, elle le recadre un peu, donc lui essaie de comprendre ce qui peut choquer dans ce qu'il fait, parce qu'il est assez... premier degré, donc il ne voit pas le mal. Je sais qu'en tout cas, que c'est des échanges qu'ils ont souvent et qui se sont renforcés dans le temps.
D'accord. Et est-ce que vous savez si vos enfants ont eu des jeux avec d'autres enfants?
Non, je ne sais pas.
Ou c'est des choses que vous avez pu surprendre, voilà, les jeux du docteur ou...
Non, alors, j'ai jamais vu mes enfants jouer au docteur. C'est particulier, mais en tout cas, je n'ai pas eu de visibilité là-dessus. Non.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une différence ou que ça a été vécu différemment, voilà, de répondre à toutes ces questions à vos enfants pour vous et pour votre épouse? Finalement, d'être un père ou une mère, voilà, est-ce que ça induit des choses différentes ou pas ou...
Ça induit des choses différentes sur chaque enfant. Pour ma fille, on a, je pense, chacun eu un rôle. Et pour mon fils, pareil. Et c'est pas les mêmes. Pour ma fille... Il y a toute une période, il y a 3-4 ans, juste avant ses premières règles, etc., où effectivement, la maman a un rôle prépondérant et elle était plus proche en termes d'échanges. Et pour mon fils, sur toutes ces questions un peu émotionnelles, ou même il veut me parler de ces histoires de cœur, j'ai plus le confident. Donc, je pense qu'on a une parole assez ouverte, mais qu'on a des rôles très différents, que ma fille a souhaité que je sois plus... s'en retrait à certains moments, alors qu'on...
Oui, auquel, par exemple?
Ben, justement, il y a 3-4 ans, justement, le moment où elle a commencé à rentrer dans la prépuberté, là, elle avait des questions directes, où elle s'enfermait avec sa maman, etc. Et puis après, la porte s'est réouverte quand je pense qu'elle a réussi à passer cette période et vraiment rentrer dans l'adolescence, où là... Elle a pu reparler de ces sujets-là avec moi. Mais il y a eu toute une période où dans les rôles, j'ai senti qu'elle avait besoin des conseils de sa mère, en fait. Hein, et puis de la vision de sa mère.
Et pour votre fils, comment les choses se sont faites? Il aborde...
Il aborde, mais enfin, les sujets qu'on évoque en ce moment, c'est plutôt... en tout cas, l'accent que j'essaie de mettre dans la discussion, c'est le rapport à la femme. Je ne dirais pas le consentement, mais quand même ce sujet qui est de se dire... à quel point ça peut impacter des jeunes filles, etc. Et à quel point il faut qu'ils trouvent le moyen de communiquer avec... enfin, en tout cas, pour pas aller trop loin, vexer, etc. Donc on a plutôt ce rapport... c'est quoi la séduction? Parce qu'il est en plein dans ce moment-là, des amoureuses... ce petit côté séduction sans le dire, mais en même temps, ça peut être un peu, parfois, on se dispute, ça peut être un peu violent dans la manière dont on s'exprime entre garçons et filles à cet âge-là. Et donc, on est plutôt sur ce rapport-là.
Et là, vous disiez, Raphaël, voilà, que votre fille, donc, elle a 14 ans, votre fils pré-ado. Est-ce que l'adolescence amène de nouvelles questions? Alors, vous nous disiez, voilà, il y a eu ce temps de transition pour votre fille, vraiment avec des questions... vraiment au niveau du corps. Alors là, vous évoquez la question de la relation aussi, de la relation amoureuse. Finalement, parler de sexualité, c'est peut-être aussi parler de relations affectives. Alors, comment justement, voilà, vous abordez ces questions-là avec vos enfants?
Comment on les aborde? Là encore, c'est différent entre les deux, de par l'âge et de par le rapport et le lien concret avec chacun. Avec ma fille, j'ai découvert ça presque sous mes yeux quand elle était en fin de CM2, où suite à la fête de fin d'année, son amoureux a décidé de lui offrir un cadeau et donc de partir avec elle pour lui offrir un bracelet. Et j'avoue que j'ai été totalement désemparé. Donc je les ai laissés partir, elle est revenue vers moi, on est rentré à la maison à pied et je me souviens qu'elle m'a dit « Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Comment ça ? Bah, tu ne dis rien. » Effectivement, j'ai rien dit. Mais je l'ai trouvée heureuse et donc ça, c'était super. Et moi, je ne m'étais pas préparé à ce moment et j'étais assez désemparé. Mais après, donc, je lui ai posé des questions sur cette relation et elle m'a répondu assez directement, qu'ils ne se voyaient plus parce qu'elle est partie au collège. Et donc, en fait, c'était le moment où je me suis dit ma fille a donc une espèce de vie sentimentale. Et je dirais qu'on en parle assez librement que son frère met ça très souvent sur le tapis pour essayer de lui poser des questions. Et donc, c'est quelque chose dont on parle assez souvent à table, sans tabou. Et puis, je les trouve tous les deux, et elle particulièrement, assez ouverte et encline à en parler.
Vous diriez que c'est vous qui avez envie d'en parler ou que c'est, finalement ça vient d'eux, que c'est venu assez naturellement?
Je dirais pas qu'elle a envie d'en parler. Je dirais qu'elle répond aux questions avec toujours un petit peu d'humour, un petit peu ça ne vous regarde pas, mais en même temps j'ai envie d'en parler. Et donc le sujet vient pas d'elle-même. Le sujet, quand il est abordé, elle ne le rejette pas, elle se braque pas, elle veut pas s'enfermer dans sa chambre, jamais. C'est plutôt, elle a plutôt une forme d'humour en fait, en montrant. Je vous ne cache rien, mais c'est quand même mon jardin secret.
En tout cas, là, vous nous avez dit, Raphaël, que finalement, aux différentes étapes, alors que parfois, vous avez pu être surpris, un peu pris au dépourvu par les questions ou ce qui pouvait se passer, que finalement, avec votre épouse, vous avez, j'entends beaucoup, échangé, et puis vous avez laissé aussi faire les choses en respectant le rythme de chacun. De vos enfants. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles pour vous ou pour votre épouse ?
J'ai pas de moment difficile en tête, en tout cas au sens où on peut l'entendre. En revanche, il y a le doute permanent. On n'a pas le manuel, les questions ne viennent jamais au moment où on s'attend qu'elles viennent. Et donc, en fait, on est dans une forme d'intuition permanente, en fait. Et à ce moment-là, on est deux, donc ça va, on discute, mais aucun de nous n'a de certitude. On était quand même plutôt alignés à chaque fois, donc ça aide beaucoup. Et donc, en fait, c'est de naviguer dans la certitude qui est difficile. C'est de pas savoir si on fait bien, si ce qu'on va dire a une influence positive, négative, sur la suite des événements. Donc, avec la conviction quand même que tout est un peu rattrapable, qu'on a le droit d'échouer, de faire quelques erreurs. Mais oui, c'est ça qui est difficile. C'est vraiment de pas savoir, en fait.
Est-ce que pour vous, aborder ces questions-là, c'est quelque chose d'important et qui va continuer d'être important pour accompagner vos enfants, justement ?
Moi, je pense que c'est crucial. Enfin, en tout cas, moi, si je me remets dans mon enfance, et si je compare avec... j'ai 16 ans d'écart avec ma dernière sœur. Et donc, naturellement, elle a pas eu les mêmes parents que moi, en fait. 16 ans d'écart, ils arrivent à un âge différent, il n'y a pas la même accessibilité, etc. Et donc, moi, je sais ce que j'ai tiré d'avoir pu avoir cette sensation, que je pouvais absolument tout dire à mes parents sur ce sujet-là. Je sais ce que j'en ai tiré, et je sais à quel point ça m'a construit. Je pense positivement. Et donc, on était d'accord sur le sujet avec mon épouse, que notre seul modèle, en fait, c'est qu'ils puissent se dire qu'en fait, les parents, peuvent être un des vecteurs de communication. C'est pas le seul. Il y a les amis, il y a plein d'autres choses, etc. Mais les parents sont un relais important. Et je pense que c'est crucial. Enfin, c'est un élément crucial de ce qu'ils sont, en fait.
En tout cas, là, vous dites quand même que pour vous, tout ça a été plutôt fluide et naturel parce que, aussi, c'est un discours très libre et très ouvert que vous aviez eu avec vos propres parents.
Oui, ouais, totalement. Même si je l'ai... Pendant toute mon adolescence, je ne peux pas dire que je pensais ça. Je ne me posais pas la question, à vrai dire. En fait, c'est a posteriori que je me suis dit qu'en fait, je ne me suis jamais posé la question d'évoquer ces sujets avec mon père ou ma mère. Je l'ai fait. Et j'ai toujours eu les réponses qui m'allaient, qui me permettaient d'avancer. Donc, a posteriori, je me dis que ça m'a construit. Et c'est juste ça que j'essaye humblement de reproduire, mais avec des doutes permanents.
Justement, dans vos doutes, est-ce que vous avez essayé d'aller chercher de l'aide à l'extérieur ou autre ?
À l'extérieur, enfin, en tout cas, c'est entre amis, on a quand même des amis à peu près du même âge, avec des enfants qui grandissent aussi, donc c'est des échanges qu'on a en permanence. Après, c'est difficile parce qu'il y a des points de vue aussi très différents dans le cercle d'amis. Il y a des enfants très différents qui réagissent très différemment. Donc, on confronte les idées. Donc, les amis, oui, un peu de lecture, mais pas au-delà, en fait. Et puis là aussi, on peut lire ou entendre des choses parfois assez différentes. Et donc, finalement, quand on lit un peu et quand on échange beaucoup, parfois, on se ressent sur ses convictions parce qu'on n'a pas eu de convergence dans tous les apports qu'on peut avoir.
Ok, merci beaucoup Raphaël. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Sonia Le Breuil.
Très bien, avec plaisir.
Bonjour Sonia, vous êtes socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle. Vous intervenez auprès des enfants dans les écoles, dans votre cabinet. Vous recevez en individuel, mais vous proposez également des animations de groupe autour de la sexualité pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Dans mon cabinet, alors c'est généralement pas la raison première de consultation, mais dans les parents que j'accompagne, beaucoup s'interrogent sur cette question autour de la sexualité, comment en parler à leurs enfants. Alors parfois cette question aussi, elle arrive quand il y a un enfant qui arrive dans la famille, quand il y a une naissance, que la famille s'agrandit. Mais évidemment, cette question de la sexualité, elle va se poser à plein d'autres moments de la vie de l'enfant, comme vient de nous le dire Raphaël. Qui nous a dit en effet que même si pour lui ça a été globalement facile, il y a eu quand même des moments de prise au dépourvu, de gêne, parfois peut-être un peu de malaise. Tout d'abord, Sonia, en quoi c'est important de parler de sexualité aux enfants et aux adolescents ?
Déjà, bonjour Mathilde, bonjour Raphaël. La notion de sexualité, déjà elle débute dès les premiers jours de notre vie. Du coup, c'est normal que les enfants ils aient envie d'aborder ces questions avec nous et qu'ils aient envie de nous en parler. Ils peuvent verbaliser les choses, mais ils peuvent le montrer aussi au travers du corps. Des fois, juste avec en se touchant, en montrant sur notre corps. Ils vont communiquer de façon très différente. Et ils vont communiquer entre eux aussi. Alors, la sexualité, déjà, ça fait partie du développement psycho-affectif de l'enfant. Et en fait, on a tendance à oublier que la sexualité, en fait, elle n'est pas naturelle. C'est pas inné. Comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas un manuel, on n'est pas avec. Et quand on est enfant ou quand on est parent, du coup, on n'a pas forcément toutes les clés pour savoir comment on fait. Donc la sexualité, c'est vraiment tout un fonctionnement qui va se développer et se maturer depuis l'enfance jusqu'au bout de notre vie. Donc pour qu'elle se développe, pour qu'elle se mature, il nous faut des modèles d'apprentissage. Et ces modèles d'apprentissage, on va aller les chercher dans des lieux et auprès de personnes très différentes, et notamment auprès de nos parents, parce que quand on est enfant, quand on est ado, c'est un des lieux qui peut être le plus accessible. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut bien se dire que quand ce n'est pas le cas, l'enfant, il a de toute façon des questions autour de sa sexualité. Et j'insiste là-dessus, c'est parler sexualité avec un enfant, c'est garder en tête en fait qu'il y a des étapes différentes à la sexualité, et on a tendance d'ailleurs à penser que ce mot il est réservé au monde d'adultes, parce que souvent derrière le terme de sexualité, nous les adultes on a tendance à coller rapport sexuel, en tout cas à le limiter à cette sphère là de la sexualité, alors que la sexualité il y a une sexualité d'enfant, une sexualité de pré-ado, une sexualité d'ado et une sexualité d'adulte. Et c'est de se dire, faut faire attention en fait à quand on parle à un enfant, Moi, je fais toujours l'image, en fait, mettre la même paire de lunettes que lui, du coup, essayer de voir le monde dans lequel il vit, et du coup, parler de sa sexualité à lui, et surtout pas transposer notre sexualité d'adulte ou notre vision de la sexualité adulte sur sa sexualité d'enfant. Donc, c'est vraiment reprendre ses mots, écouter ses curiosités, ses angoisses, et puis l'aider à comprendre et à poser simplement des mots dessus.
Oui, en tout cas, là, Sonia, vous soulignez bien voilà, que ça fait donc partie de l'enfant, ça fait partie de son développement, qui va avoir une sexualité qui va évoluer dans le temps et avec son âge. Donc, le fait de lui parler de tout ça, c'est une manière de lui apprendre à gérer ce qui se passe dans son corps, lui permet d'avoir conscience de ça. C'est aussi une manière de l'éveiller à la relation à l'autre, à la dimension affective, entre autres. Et puis là, je pense aussi à la question des abus sexuels et des violences sexuelles. Quand on sait ce que c'est que la sexualité aux différentes étapes, qu'on a conscience de son corps et de le respecter, forcément, un enfant sera plus à même aussi de pouvoir se protéger de ce qu'on pourrait lui faire subir.
De se protéger et de pouvoir simplement en parler. Parce que quand les parents répondent à nos questions autour de la sexualité, nous ont permis de nommer le sexe, ça veut dire qu'en fait, cette zone de notre corps, elle n'est pas interdite, elle n'est pas taboue. On a le droit d'en parler, on a le droit de la toucher. Et ça facilite grandement les révélations des enfants quand ils ont subi des abus sexuels ou des viols. Parce qu'on se dit, en fait, je peux en parler à papa et maman. Parce que déjà, c'est un sujet qu'on peut aborder à la maison. Alors que si à la maison, on n'a jamais nommé le sexe, et ça arrive dans certaines familles. Si quand on essaye de toucher notre sexe, on nous dit tout de suite, non, c'est sale, il ne faut pas toucher. Et qu'en fait, la famille, elle insiste en fait sur cet interdit autour du sexe, en tout cas. Et en fait, si l'enfant un jour il subit quelque chose, ça va être très compliqué pour lui de le révéler à ses parents parce que il a pas un espace d'écoute en temps normal. Donc là, quand il y a un problème, c'est encore plus difficile. Et le fait de pouvoir parler sexualité avec les enfants, ça les rassure terriblement parce qu'il y a un moment, ils se posent plein de questions. En fait, les petits garçons, ils ont des érections depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, quand ils commencent à parler, ils s'interrogent beaucoup sur pourquoi mon zizi il est tout dur le matin quand je me lève. Des fois, ils vont vous dire que ça les embête. Alors des fois, ça va les faire rire. Mais quand même, en fait, ils veulent comprendre pourquoi ça arrive. Ça arrive aussi quand des fois ils sont devant la télé, quand il y a leur copain ou leur copine. Qui vient s'asseoir à côté d'eux, quand ils sont très contents. Du coup, tout ça, c'est plein d'interrogations, ça peut générer des angoisses, des curiosités. Et en fait, plus on en parle, plus ça les calme, même dans leur comportement, en fait, on le voit bien. Un enfant, s'il n'a pas de réponse à ses questions et s'il n'arrive pas à trouver les réponses, alors ils en parlent entre eux, heureusement. Ils en parlent avec les instituteurs, institutrices, heureusement. Mais en tout cas, s'il n'a pas d'espace de dialogue, c'est là où il peut aussi avoir des comportements compulsifs, où y a des enfants qui vont beaucoup se toucher au niveau du sexe. Ça peut vouloir dire aussi, à un moment, personne m'écoute en fait là-dessus, donc j'essaye de manifester en fait mon intérêt, en tout cas de montrer qu'il y a quelque chose qui m'inquiète à ce niveau-là, pour que quelqu'un réagisse. Et vraiment, en tant qu'adulte, c'est important aussi de pouvoir, en nommant leur corps, en leur rappelant que leur corps, il est à eux et rien qu'à eux, et qu'il n'y a qu'eux qui décident pour leur corps. Pour le coup, ils ont le droit de dire non, même à des adultes. En fait, on les autorise à cette notion du non et du oui. Du coup, je décide pour moi, parce que mon corps, il est que à moi. Et ça, en fait, de l'entendre de la bouche d'un adulte, que ce soit nos parents, l'institutrice, nos grands-parents, peu importe. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait des adultes qui nous autorisent à dire non. Ça, c'est la base du consentement et ça limite réellement les violences sexuelles. Parce que du coup, ça va être des enfants qui vont oser dire non aux autres adultes ou aux autres enfants. Et déjà de délimiter un petit peu leur corps.
Oui, on sait bien qu'un enfant qui peut dire non, que le prédateur sexuel, généralement, ne contraint pas l'enfant. C'est plutôt une forme de manipulation. Donc si l'enfant peut dire non, il va mettre à distance le prédateur. Ça me semble quand même juste important de rappeler que 130 000 filles et 35 000 garçons subissent tous les ans des viols et des tentatives de viol. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important, même si évidemment, parler d'éducation sexuelle, ça se résume pas à faire de la prévention contre les abus, et d'où l'importance de parler de sexualité au sens large et pas seulement focaliser sur ces questions-là. Vous évoquiez, Sonia, la question du consentement. Vous, Raphaël, est-ce que vous avez abordé cette question-là avec vos enfants, le fait qu'ils puissent dire non? Alors là, je pense à toutes ces situations où on va demander aux enfants de faire un bisou à grand-père ou grand-mère ou à d'autres, alors qu'ils n'en ont pas forcément envie.
Alors, oui, on l'évoque, et le non, c'est quelque chose qu'ils ont compris depuis tout petit. Je ne suis pas très inquiet sur le sujet, mais, et particulièrement sur leur corps, comment je me coiffe, comment je m'habille, qu'est-ce que je porte, je porte pas, est-ce que je vais à la piscine, pas à la piscine. Enfin, le non, alors c'est assez plus global que la sexualité, je pense. On a toujours insisté pour que nos enfants aient un regard critique et puissent avancer avec des convictions également. Alors bien sûr, dans le cadre de respect de l'autorité, mais ça, c'est très important pour nous. Mes deux enfants font du sport collectif. Et donc, c'est aussi un moment où, dans les vestiaires, ils peuvent prendre leur douche. Le choix de « je prends ma douche avec les copains et les copines ou pas », ça aussi, c'est un choix qu'ils auront.
C'est des questions que vous avez abordées avec eux ?
Oui, depuis le début, et puis ça varie aussi. Enfin, il y a des périodes où oui, non, je ne le fais plus, pourquoi pas. Donc ça, ça me paraît super important, le non, leur espace de liberté, leur esprit critique, leur capacité à remettre en cause certaines choses, ça me paraît important. Et ça, c'est quelque chose qu'on évoque, qu'on essaie d'entretenir, mais bien au-delà du cadre de la sexualité, dans plein d'autres domaines également.
Sonia, pour avoir quelques repères, à partir de quel âge on peut parler du consentement, apprendre aux enfants à dire non ?
Pour moi, ça commence très tôt. Enfin, l'exemple le plus banal, c'est vraiment la question du bisou. Quand on oblige souvent les petits, au moment du coucher, à faire, quand il y a un repas de famille, il doit faire un bisou à toute la famille pour aller se coucher. Il y a des enfants qui n'ont pas envie de faire de bisous à certaines personnes. Bah, là, c'est vraiment les écouter. C'est le moment où ils mettent leurs limites et de se dire bah, on a le droit de ne pas faire de bisous. On peut dire au revoir avec la main de loin, envoyer un bisou de loin, mais on n'est pas obligé de faire ce contact physique. Et c'est vrai que la notion de consentement, elle commence dès qu'on est petit. En fait, on a tendance à la lier très fortement à la sexualité quand on est ado. Mais il y a un moment, si on ne nous a jamais écoutés, en fait, depuis qu'on est petit, quand ça concerne notre corps, bah, ça va être compliqué en fait, d'oser dire oui ou non à notre chérie. Quand on est ado, on tient à l'autre. Enfin, il y a beaucoup trop d'enjeux en fait, dans la relation à l'autre pour en plus commencer à initier le oui ou le non à cet âge-là. Donc, c'est de se dire... La sexualité, c'est très large. Hein. C'est le rapport à notre corps, le rapport à l'autre, nos émotions. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est vraiment une notion qui est à prendre dans la globalité et que poser ces notions de consentement ou en tout cas aider son enfant à développer cette notion de consentement, c'est déjà faire attention quand il est aux toilettes et qu'il appelle bah, « Non, en fait, j'ai pas envie que ça soit toi qui vienne pour m'essuyer. Moi, je veux que ça soit papa ou je veux que ça soit maman. » Et des fois, quand on creuse, bah, c'est « Oui, mais toi, en fait, tu me fais un peu mal. » Donc là, en fait, il pose aussi ses limites sur son corps. Ça peut être simplement les enfants, à partir de la moyenne grande section maternelle, ils veulent commencer à pousser la porte des toilettes pour être tranquilles. C'est exactement l'âge où ils vont commencer à marquer leur espace d'intimité. Donc c'est bah, les écouter à ce moment-là aussi, parce que je pose mes limites, en fait. J'ai le droit de pousser un petit peu la porte pour être tranquille, parce que oui, les toilettes, c'est un espace d'intimité. La salle de bain aussi. Donc ils vont aussi commencer à demander à être tout seul dans la salle de bain ou à se laver tout seul à certains moments. Bien sûr, ça ne sera pas forcément tous les jours. Il y a des jours où ils ont envie qu'on s'occupe d'eux. Et puis, le lendemain, il y a des fois, ils veulent se laver tout seuls et ils n'ont pas envie qu'on les touche. Et là, c'est vraiment important à ce moment-là de les écouter, parce que si on ne les écoute pas sur ces petites choses, eh bien, en réalité, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas poser le oui ou le non quand ça concerne leur corps. Et en fait, c'est comme si on ne les autorisait pas à dire oui ou non. Donc, il faut faire attention. En fait, des fois, dans le discours, on dit « c'est important, tu peux dire oui, tu peux dire non ». Mais en fait, dans les faits, des fois, par manque de temps, par manque de disponibilité, on ne le met pas en pratique.
Le parent va être contradictoire, finalement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Oui, et ça, les enfants, ils le repèrent très bien. Donc, c'est vraiment faire attention à nos actes aussi.
Et puis là, Sonia, vous nous disiez bien aussi l'importance de délimiter les espaces d'intimité, que les enfants ne vont pas toujours se les approprier tout de suite. Mais dès tout petit, on peut dire en effet que les toilettes, parce que les enfants, ils suivent leurs parents jusque dans les toilettes. Donc, même si parfois c'est difficile de fermer la porte, déjà le fait de dire que c'est quand même un espace d'intimité, comme la salle de bain, voilà, le lit conjugal, voilà, c'est l'espace de l'intimité du couple des parents. Et puis, dans ce que vous disiez, il y a quelque chose aussi dont on parle souvent dans parentalité, c'est la question de l'autonomie de l'enfant. Et que le fait de développer l'autonomie de l'enfant lui permette aussi d'apprendre à se laver seul. Et ça, finalement, c'est quelque chose dès 2-3 ans, en fonction des enfants, qui peuvent au moins apprendre à se laver le sexe seul. C'est quelque chose qui est aussi important.
Tout à fait. Alors, sur la question de la toilette, il y a aussi... l'effet inverse où les enfants, ils ont envie de se laver à plusieurs... Enfin, ça les dérange pas, voire ils ont envie de prendre des bains avec leurs frères et sœurs ou leurs parents ou prendre la douche avec. Et moi, c'est une question que j'ai souvent à mon cabinet, c'est de me dire... Enfin, les parents s'interrogent souvent en se disant jusqu'à quel âge, en fait, je peux me laver avec mon enfant. Moi, je réponds toujours, à partir du moment où ça ne pose pas de problème à l'un ou à l'autre, il n'y a pas de souci. Par contre, le jour où l'un ou l'autre pose sa limite, où ça gêne l'un ou l'autre, où on se pose la question, ça ne nous va pas, là, on arrête, en fait. C'est qu'il y a quelque chose dans l'intimité qui commence à nous déranger. Donc, c'est vraiment, tant qu'on demande à chaque fois si l'autre est d'accord, aucun souci. Mmh. Souvent, on observe ça jusqu'en maternelle. Et puis, les enfants, ils développent, en fait, leurs espaces d'intimité en moyenne grande section maternelle. D'ailleurs, ça se voit, les toilettes dans les écoles maternelles, ce sont des toilettes mixtes, ouvertes. Parfois, il y a des petites parois, mais pas tout le temps. Mmh. Mais en fait, eh ben là, c'est un bel exemple, parce que si on chausse nos lunettes d'adultes, pour nous, ce n'est pas concevable d'aller aux toilettes avec nos collègues à côté, sans porte et en toilette mixte. Mais en fait, si on chausse nos lunettes d'enfant, eux, ça ne leur pose pas de soucis parce qu'ils n'ont pas encore cette notion d'intimité. Et surtout, en fait, ils sont beaucoup dans l'observation et la curiosité. C'est d'ailleurs en moyenne grande section maternelle qu'on comprend que tous les garçons ont un zizi et que toutes les filles ont une nénette, pour reprendre leur terme. Jusque maintenant, en fait, ils avaient bien compris qu'ils avaient un sexe. Ils ont cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Et en observant autour d'eux, ils se disent, mais visiblement, il y a quand même un second sexe. Mais ils ont bien compris qu'il y avait des filles et des garçons, que visiblement, on ne jouait pas toujours au même jouet, mais ça, c'est pareil, en réfléchissant un peu, ils font eux-mêmes bouger les stéréotypes en se disant, oui, mais en fait, même si je suis une fille, je peux jouer avec les voitures des garçons. Donc, en fait, ça, ils n'ont toujours pas trouvé la réponse de la différence entre les filles et les garçons. Et c'est vraiment en moyenne grande section maternelle que là, en fait, on comprend que, mais à force d'observer à la maison ou à l'école, je me rends bien compte que tous les garçons ont le même sexe. Et en fait, il y a un moment, quand on est une petite fille et qu'on n'a pas de zizi, on voudrait bien comprendre comment ça fonctionne, par où les garçons font pipi et comment c'est. Et pareil pour les garçons, donc les enfants, ils s'observent beaucoup dans le bain, à l'école.
Oui, finalement, tous ces temps d'observation, c'est vraiment un temps d'apprentissage.
Tout à fait, oui.
Raphaël, vos enfants, combien de temps ils ont pris leur bain ensemble? Est-ce qu'ils le prennent toujours encore aujourd'hui?
Alors oui, ils le reprennent ensemble. Ils ont arrêté pendant un moment, je ne saurais pas dire exactement combien de temps, mais je crois que ma fille, je ne sais pas si c'est elle d'ailleurs, il y avait eu des limites de poser, en tout cas ils n'avaient plus le souhait ou le goût de reprendre le bain ensemble. Mais là, en ce moment, je ne dirais pas que c'est systématique, je dirais que ça arrive. En fait, je dirais qu'il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que quand le timing fait qu'ils doivent le prendre ensemble, ils le prennent ensemble et ils choisissent de le prendre ensemble. Ils redorment parfois même dans la même chambre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va déplacer son matelas pour aller dans la chambre de l'autre. Mais ils ont arrêté un moment. Et pareil avec nous, l'entrée dans la salle de bain, etc. Il y a eu toute une période où c'était un peu verrouillé. Et puis là, comme je le disais tout à l'heure, c'est parfois moi qui est obligé de dire les portes, il faudrait les fermer. Donc c'est une évolution. Alors je n'ai pas le fond de l'explication, mais je pense qu'il y a eu un moment où ils ont senti le besoin d'avoir chacun leur espace. Et puis qu'aujourd'hui, ils sont peut-être réassurés dans certains éléments et que qu'aujourd'hui, ça se passe bien, en tout cas.
Si finalement, l'enfant peut être l'adolescent à l'aise, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où c'est aussi aux parents de poser les limites, même si l'enfant ne le fait pas par lui-même? Là, je pense à l'adolescence où là, ce que vous dites finalement, Raphaël, que même si ce n'est pas une demande de votre fille, vous rappelez quand même que c'est un espace d'intimité, qu'il faut peut-être fermer la porte.
Peut-être que c'est moi le plus gêné de l'histoire, en fait. C'est moi le plus gêné de l'histoire. Et quand je lui dis ça, c'est vrai que quand je me balade, je passe dans les toilettes et puis qu'elle laisse tout ouvert, je lui fais cette remarque. Je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais c'est parce que c'est moi le plus gêné de l'histoire.
Mais c'est exactement ça. C'est à partir du moment où ça gêne l'un ou l'autre, et là, notamment l'exemple des toilettes, du coup, là, elle se montre aux autres. Et du coup, on n'a pas forcément envie de se voir nu mutuellement. Donc là, on peut poser ses limites dans ce cas-là. Après, pour reprendre l'exemple du bain, il y a des moments, en effet, on est plus rassuré qu'à d'autres moments. Selon les règles qu'il y a dans la famille, il y a des fois, la nudité, elle est plus facilement acceptée, elle est plus commune. Donc, en fait, ça ne gêne pas. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, vous avez bien mis le doigt dessus, c'est que quand ça gêne l'un ou l'autre, là, c'est important de rappeler quand même les règles d'intimité et de se dire, en fait, notre corps, il est quand même qu'à nous et on n'a pas forcément envie de voir qu'on nous impose la nudité.
Oui, finalement, le parent, en posant sa limite, donne aussi un cadre et une limite
à
l'adolescent, même s'il peut être très à l'aise. Finalement, le fait que le parent soit mal à l'aise, ça rappelle quand même quelque chose de certaines normes aussi pour vivre en société.
Voilà. Tout à fait.
Vous parliez de nommer le sexe. Alors, vous utilisiez les petits mots que les enfants peuvent utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser ces mots-là ou est-ce que c'est important de nommer les parties génitales avec leur vrai nom, donc un pénis, une vulve? Dans la vulve, il y a un vagin, un clitoris.
Alors, c'est important et c'est même essentiel de les nommer réellement. Tout à l'heure, Raphaël, vous l'avez dit, ça va être important d'utiliser les mots des enfants quand on discute avec eux pour se comprendre et qu'on parle bien de la même chose. Parce que l'enfant, si on lui parle d'un pénis d'entrée de jeu, si c'est pas ce que c'est, il y a un moment, on parle pas de la même chose et on va pas du tout se comprendre. Mais c'est que, à force d'en discuter avec lui, il y a un moment, c'est important de lui dire, bah, en fait, est-ce que tu sais l'autre terme pour nommer ton zizi, en fait, et de poser ce mot pénis et de temps en temps de lui redemander est-ce que tu t'en souviens. Sincèrement, ils enregistrent très bien, les enfants, donc dès la deuxième fois, il va savoir vous dire que ça s'appelle un pénis. Et moi, j'insiste tout particulièrement sur le sexe des filles. Le sexe des filles, des femmes, il n'est pas nommé en France. Très peu de femmes savent que leur sexe, ça s'appelle une vulve. La plupart du temps, elles appellent ça un vagin. On entend encore beaucoup que le sexe des femmes, il est caché, il est à l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose, en fait, qui est... On lui donne pas sa place. Donc, c'est important avec les petites filles de leur dire, bah, elles peuvent appeler ça une nénette, ok, mais en fait, la nénette, ça s'appelle une vulve aussi. Et déjà, qu'elle puisse commencer à poser ce mot-là progressivement depuis qu'elle est petite, elle va oser nommer son sexe. Et du coup, ça donne une place au sexe. Et bah, il y a un moment, ça permet prendre sa place dans sa sexualité plus tard. Parce que c'est pas anodin. Il y a quand même un secret autour du sexe des femmes, juste du fait qu'il soit pas nommé. Et ça, c'est la base.
Il a un kiki.
Il a un kiki. C'est un garçon.
Les filles, parce que...
Elle a pas de zizi.
Non.
Ah bon?
Regarde là, petit
zizi. Ben, alors?
Si elle en a un, mais c'est un trou.
Oui, les petites filles, elles n'ont pas rien. Voilà, parce que c'est aussi parfois ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir aussi dans les livres d'anatomie pour enfants où il y a le zizi qui est noté et puis pour la petite fille à côté, il n'y a rien qui est noté. Voilà, il y a encore des livres d'anatomie pour enfants où les choses sont signifiées de cette manière-là.
Et je pense qu'il ne faut pas oublier que quand les petites filles en maternelle, elles nous parlent de leur sexe parce qu'elles ont besoin de nommer, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, elles s'observent beaucoup dans le bain. Filles et garçons s'observent beaucoup dans le bain. Et les petites filles, elles savent très bien vous dire que sur leur vulve, il y a un petit truc qui chatouille en haut, donc c'est le clitoris. Elles savent vous dire par où elles font pipi, donc elles ont repéré l'urètre. Et elles savent vous dire qu'elles ont un autre trou, et en plus qu'elles ont le trou des fesses, pour reprendre leur terme. Donc en fait, elles ont très bien compris comment elles étaient faites. Il y a certaines femmes adultes qui ne savent pas vous donner ce niveau de détail, alors qu'en fait, notre sexe, il est sur notre corps, en fait. Donc ça montre, les enfants, ils savent plein de choses, et ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand un enfant nous pose une question, notamment en termes de sexualité, c'est qu'il a commencé déjà à élaborer des pistes de réponse et que ça l'intéresse réellement. Donc moi, mon conseil, c'est l'enfant nous pose une question, bah, on lui renvoie la question en lui montrant qu'on a de l'intérêt pour cette question. Et ça, c'est la question, bah, comment on fait des bébés, c'est de se dire, bah, toi, tu penses qu'on fait comment les bébés? Et de là, il ou elle va vous donner ses pistes de réponse. Et nous, en tant qu'adultes, on est là juste pour redonner de la cohérence à tout ça. Comme ça, ça permet de respecter son rythme. Et surtout qu'on ne s'embarque pas dans des explications d'un quart d'heure avec des grandes phrases. Le second conseil, c'est des phrases courtes avec leurs mots et deux, trois phrases, pas plus. Et après, on lui repose une question pour voir s'il en est là.
Oui, là, j'ai souvenir d'adolescents qui me disaient « Moi, mes parents, ils m'en parlent pendant des heures, ils me convoquent pour un conseil de famille entre quatre yeux où on va parler du préservatif et finalement, c'est gênant pour tout le monde et ça ne sert pas à grand-chose.
» Tout à fait. Et ça peut même générer des angoisses. Juste la question du préservatif pour les adolescents. Souvent, on a envie de leur expliquer comment on le met, comment ça fonctionne, pourquoi on le met. Mais on oublie, en fait, de partir de la base et de se dire, en fait, ton pénis, il n'a pas fini de grandir. Et du coup, le préservatif, souvent, il est beaucoup trop grand. En tout cas, au collège, il y a une différence de taille assez impressionnante entre la taille du préservatif et la taille du pénis pour certains garçons. Et c'est de se dire, ok, pas de panique, en fait, ton pénis, il va continuer à grandir. Et après, il peut regarder un préservatif, il peut jouer avec, il peut faire un ballon avec. Ça permet aussi de démystifier cet objet et de le rendre un peu plus banal. Comme ça, si un jour, s'il a envie et besoin de s'en servir dans la sexualité, ben, il osera plus facilement le toucher parce qu'on l'aura banalisé.
En tout cas, là, vous dites bien l'importance de normaliser, en tout cas, ce qui se passe au niveau du corps, et puis tout l'intérêt, les questions aussi que posent les enfants, et que finalement, les enfants, ils posent des questions en lien avec là où ils en sont, avec leur curiosité. Il y a pas, ils posent les questions en fonction de leur âge. Et finalement, quand les enfants sont confrontés à des choses de la sexualité adulte, là, ils vont poser des questions qui alertent évidemment davantage.
Tout à fait. Et parfois, c'est aussi le moment où nous, adultes, alors ça nous gêne et on trouve qu'ils... Enfin, on a l'impression qu'ils cherchent à nous confronter ou à nous gêner, alors que pas du tout. C'est notamment souvent le cas avec les garçons en CM1, CM2. Filles et garçons en CM1, CM2, il y en a une bonne partie qui ont déjà vu des images pornographiques ou des vidéos.
Et c'est 9 ans, l'âge moyen
tout à fait.
De premier visionnage. Donc, il ne faut pas oublier que nos enfants, ils sont toujours plus en avance que les parents, voilà, sur ces questions-là, qu'ils en savent toujours beaucoup plus, qu'ils ont vu beaucoup plus de choses que ce que les parents peuvent imaginer.
Tout à fait, sauf qu'ils n'ont pas forcément la compréhension qui est associée à ça. Mmh. Et notamment, quand en CM1, CM2, une fille ou un garçon voit une vidéo pornographique, il y a un moment, là, on l'a confronté à notre sexualité d'adulte, en plus qui est souvent dénuée d'affection ou de sensualité. Du coup, c'est des enfants qui ne vont pas comprendre. Le désir sexuel, ça arrive avec les hormones. Donc, ça arrive au moment de la puberté, plutôt vers le collège. Donc, déjà, ils ne sont pas dans ces notions-là d'excitation sexuelle. C'est des pratiques sexuelles qui ne leur parlent pas du tout, qui vont même, en général, les repousser ou les angoisser. Et quand ils nous posent la question, souvent, c'est un peu brut. C'est quoi une sodomie ? En CM1, CM2, souvent, on se dit, en fait, ils cherchent à me déstabiliser. Enfin, le parent ou même le professionnel de santé, parce que moi, je l'entends souvent de la part de collègues, c'est de se dire, je réponds pas à ces questions parce qu'en fait, ils cherchent juste à nous embêter. Pas du tout, en fait. Quand on leur pose la question, vous avez entendu ce mot ou déjà, et souvent, ça va être, je l'ai entendu sur une vidéo, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Et quand il y en a un qui... Alors moi, je demande toujours, est-ce qu'il y en a un qui sait ce que c'est au final ? En fait, quand on creuse, c'est... Oui, il y en a qui savent ce que c'est, qui ont vu ça, mais qui ne comprennent pas du tout, en fait, pourquoi certains adultes font ça. Et c'est toujours de se dire, mais moi aussi, je vais devoir faire ça ou pas, Sonia. Et donc, c'est vraiment d'apaiser et de remettre... Alors, on ne part pas dans des grosses explications, mais on remet la sexualité des adultes à sa place en se disant, ça, c'est une sexualité d'adulte, c'est normal, en fait, là, que ça génère des angoisses, que ça puisse faire peur, parce que nous, on ne peut pas comprendre ça en tant qu'enfant... Là, vous n'en êtes pas là. En fait, on en est dans les relations amoureuses, dans les changements du corps, dans l'attirance vers l'autre, peu importe qui est l'autre. Mais en tout cas, on n'en est pas encore sur ces notions-là d'attirance sexuelle et de désir.
Oui, donc c'est vrai que parfois, ils ont accès à des choses où là, l'importance de l'adulte va être d'expliquer, de ramener, de, voilà, vous dites bien, de séparer les choses entre ce qui concerne les enfants et puis ce qui concerne les adultes.
Oui.
Pour revenir voilà, à tous les points importants, les conseils que vous nous apportez, Sonia, souvent aussi revient cette question de poser l'interdit de l'inceste. Comment ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et en quoi c'est important de le faire ?
Alors, c'est important. Il y a à la fois l'inceste et à la fois les climats incestuels. C'est de se dire que... faut faire attention à respecter nous-mêmes en tant que parents, en tant qu'adultes, en fait, les limites de l'enfant. L'enfant, parfois, il va pas oser poser les limites face à nous. Et dans des relations, mais ça marche pour tout. Hein. Plus on est proche d'une personne, plus on l'aime. Des fois, c'est compliqué, en fait, de poser ses limites et de mettre la distance. Donc, c'est de faire attention à un moment. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on peut pas toucher le corps de l'enfant où on veut. Notre enfance, il est pas à nous. En fait, son corps nous appartient pas. Mais comme notre corps ne leur appartient pas, des fois on peut entendre certaines mamans dire en fait ma poitrine elle lui appartient aussi, c'est un peu son doudou. Non, en fait, il y a un moment, ma poitrine elle est à moi et en fait l'enfant ne peut pas la toucher comme il veut. Et c'est pareil en fait dans l'autre sens, c'est de se dire on ne touche pas le corps de notre enfant comme on veut, on doit lui demander l'autorisation. Pareil, veillez aussi ce qu'on va lui renvoyer en fait, parce que les enfants ils vont. Notamment au moment de la naissance, en fait, vraiment cette période de préadolescence qu'on nomme plus généralement comme ça. En fait, l'adolescent et l'adolescent, en fait, commencent à se servir de son corps, à le décorer, mais en tout cas, peut-être qu'on commence à se maquiller, on s'habille différemment. Et des fois, en fait, ça crée des gros décalages parce qu'on renvoie aux adultes des attitudes de séduction, alors qu'eux, ils sont juste en train de s'approprier leur corps et de voir comment ça passe ou pas avec leur père, leur groupe de pères. Sauf que Le problème, c'est qu'il renvoie des choses aussi aux autres, et notamment aux adultes. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, c'est important qu'on sache poser les limites et qu'on fasse attention à ce que nous, on va leur renvoyer aussi, parce que ce n'est pas des attitudes de séduction, en tout cas, qui nous sont destinées. C'est simplement entre eux.
Ce que vous dites sur le climat incestuel, ça rejoint voilà, ce dont on parlait aussi sur la nudité en famille. Il y a un climat incestuel quand il n'y a pas de limite ou quand ce n'est pas OK pour tout le monde. Donc voilà, de pouvoir être à l'écoute de ça et puis voilà, de respecter les cadres d'intimité, les espaces d'intimité de chacun.
Oui, voilà. Respecter ces espaces de façon factuelle, mais aussi dans les propos, c'est de se dire on ne raconte pas autour de nous en fait, la sexualité, mais au sens large, hein. En tout cas le rapport au corps de nos enfants, en fait, ça leur appartient et si nous raconte des choses, c'est important de ne pas aller le raconter à l'extérieur. Ça aussi, c'est l'intimité.
Bien sûr. Juste pour revenir sur cette question de l'interdit de l'inceste, voilà, vous avez bien dit, les parents n'ont pas le droit de toucher n'importe où le corps de leur enfant. Voilà, ça, c'est important de le dire à l'enfant et puis de le dire aussi que d'autres adultes n'ont pas le droit. Voilà, que l'enfant sache que c'est quelque chose voilà, qui est puni par la loi, que c'est interdit. Et de le poser très clairement. Et là aussi, on peut le dire dès tout petit. Et puis, voilà, la formulation va évoluer avec l'âge.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de le poser clairement. Et d'ailleurs, quand on parle de sexualité, c'est de dire clairement les choses et pas de faire des images. Plus c'est imagé, plus c'est flou. Et il y a un moment où on ne comprend pas les choses. Donc oui, rappeler qu'il y a une loi pour ça. Et dans, même dans cette idée-là, moi, je me dis, quand on parle sexualité avec nos enfants, nos ados, qu'on soit parents ou pas, moi, je les invite toujours à se dire, est-ce qu'il y a deux adultes autour de toi, deux adultes de confiance qui sont pas forcément tes parents. Et quand on est parent, de se dire, bah, c'est pas forcément nous. Est-ce que tu as des adultes que tu aimes bien, qui t'écoutent quand tu parles parce que ça, c'est pas systématique. Et si tu avais un petit ou un gros problème, tu peux leur en parler et c'est des gens qui vont toujours t'aider. Et que l'enfant il puisse identifier au moins deux personnes de confiance autour de lui pour pouvoir... Si un jour il a simplement des questions ou si un jour il s'est passé quelque chose, pouvoir en fait en discuter avec cette personne. Parce que des fois, et souvent, ça se passe quand même dans la famille. Donc il faut que l'enfant il puisse l'aborder avec quelqu'un d'autre. Et notamment quand ça se passe au niveau de la famille proche, des fois on n'ose pas le dire à papa ou à maman. Parce que on se dit, mais quand c'est, je sais pas, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, ou le père ou la mère qui a commis un abus sexuel sur l'enfant, il y a un moment... Des fois, ça aide que cet adulte de confiance, ce soit une personne extérieure, en fait, à cette cellule famille.
Vous nous disiez, Sonia, voilà, l'importance de respecter les secrets, l'intimité de l'enfant, d'éviter, voilà, on en a parlé, des sermons fastidieux, de les rejoindre sur leur terrain, d'utiliser leurs mots, poser aussi frontalement les questions, ce que vous avez aussi un peu fait, Raphaël. Parfois, moi, je recommande aussi aux parents de parler d'eux-mêmes. Évidemment, c'est plus facile avec des adolescents, mais parler de son premier amour ou de, des questions que soit on a pu rencontrer à cet âge-là, parfois, voilà, ça peut parler. Je vous vois sourire, Raphaël. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait avec vos enfants ?
Oui, je pense l'avoir fait et ils posent beaucoup de questions aussi. Il y a une question qui a commencé il y a 2 ans. C'était « Papa et maman, combien de fois vous avez fait l'amour ?» Et entre eux, c'était « Est-ce qu'ils l'ont fait cette année ou pas ?» C'était assez marrant, en fait, parce que il y avait ce petit jeu entre eux de presque pari. Donc, en fait, ils ont des questions sur notre sexualité, qui posent de manière assez simple, je dirais. Et c'est vrai, en tout cas, ils m'ont aussi posé des questions sur mon adolescence, etc. Ne serait-ce parce qu'ils connaissent mes amis, à qui j'ai grandi, même mes petites amies à qui j'ai grandi. Donc, ils posent des questions assez naturellement. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé.
Qu'est-ce que vous avez répondu à la question sur votre sexualité aujourd'hui avec votre épouse ?
En fait, on a joué un petit peu avec eux. On est rentré dans le jeu, quoi. On disait, vous chauffez pas, etc. Donc c'était un petit peu en mode jeu. Et en fait, maintenant qu'il y a un écart d'âge, ma fille est quand même à peu près au fait de certaines choses, alors que mon fils est beaucoup plus éloigné. Donc elle lui dit, mais t'es bête, mais tu crois qu'ils l'ont fait que 2 fois, parce que lui, il était à peu près sur cette idée-là, en fait. Faire l'amour, ça sert à faire des enfants, donc il y a 2 enfants dans la famille, ils ont dû le faire 2 fois, peut-être 3 ou 4, bon. Et donc là, il y a un jeu entre eux aussi, également. Donc, mais on leur a quand même dit que non, enfin, on s'aimait encore, et donc on avait une sexualité régulière.
En tout cas, voilà, je crois que vous dites bien comment vous avez réussi aussi à décaler les choses et leur faire entendre des choses de la réalité de la sexualité adulte, mais sans les confronter directement à ça.
C'est exactement ça. moi, je me dis, on n'a pas à être au courant de la sexualité de nos ados. Ils n'ont pas à être au courant de notre sexualité. Par contre, c'est comment on arrive à répondre à leurs questions, leurs curiosités, de façon générale. Et là, c'est ce que vous avez fait, c'est de pouvoir leur dire, en tant qu'adulte, oui, on a une sexualité régulière. Et là, votre fils, il a quand même bien montré, en fait, là où il en était, c'est de se dire, pour lui, la sexualité d'adulte, elle est très liée à la reproduction. Et pourquoi, en fait, on aurait des rapports sexuels autrement ? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas encore cette notion d'attirance sexuelle qui est compréhensible pour lui. Il n'en est pas encore là. Les premiers signes d'excitation sexuelle, c'est à partir du collège, quand la personne qu'ils aiment ou par qui ils sont attirés vient leur parler, ils se mettent à avoir chaud, le rythme cardiaque accélère, ils savent plus trop bien parler. Ça, souvent, ils me disent, je suis hyper stressée, hyper angoissée. C'est de se dire, ça veut surtout dire qu'en fait, on est attiré, que ton corps, y a un moment, c'est nos hormones et c'est du désir sexuel qui s'installe dans le corps. Donc, oui, il n'en est pas encore là et sa remarque, ça montre bien le décalage en fait, qu'il a. Notamment avec votre fille qui, elle, du coup, a déjà initié ça dans son corps. Et puis, une compréhension assez différente. Sachant que sur la puberté, elle arrive un peu plus tôt pour les filles que pour les garçons. Donc ça crée souvent aussi un décalage au collège. On le voit très clairement dans les classes. En 6e, 5e, 4e, on a des garçons, même en termes de taille, qui vont être beaucoup plus petits, des filles beaucoup plus développées. Exactement. Et même entre eux, ça crée des décalages assez importants parce que y a un moment, c'est compliqué des fois en tant que fille d'avoir un corps qui se développe plus vite que les copines ou même plus vite que les copains, en fait, où eux sont encore une apparence d'enfant. Et des fois, ils ne se comprennent pas bien entre eux à cet âge-là, en fait.
Oui, on voit les débuts des années collège sont souvent des années où on observe ce genre de choses. Souvent, les parents sont démunis par rapport à deux questions aussi, par rapport à la question de la masturbation et puis la question des jeux sexuels. Alors, vous disiez, vous, Raphaël, que vous avez un peu laissé faire, mais quand même, ça avait pu susciter un petit malaise, que vous avez été un peu pris au dépourvu. Le parent peut gérer ces situations.
Alors, sur la question de la masturbation, mais c'est de se dire en fait que l'enfant, il a un sexe depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est né avec. Donc, à un moment, quand il découvre son corps, il découvre aussi son sexe et il va avoir tendance à le toucher. Il fait une grande découverte, c'est à peu près en grande section maternelle, c'est le moment où toutes les filles et tous les garçons découvrent, en fait, quand on vient toucher notre sexe, ça fait du bien et ça procure du plaisir. Donc, il y a un moment. À cette période, pendant quelques semaines ou quelques mois, les petites filles et les petits garçons vont beaucoup se toucher, les petites filles un peu plus se frotter, parce qu'à un moment, elles ont juste simplement moins accès à leurs culottes, du fait qu'on leur mette des collants, des robes, donc elles se frottent un peu plus. Mais en tout cas, ça dure quelques semaines, quelques mois, et ça va commencer à déranger les adultes, parce que nous, avec nos lunettes d'adultes, on voit des pratiques de masturbation qui, pour nous, sont liées à de l'excitation sexuelle. Alors que si je mets mes lunettes d'enfant, je me dis, non, en fait, il découvre son corps ou elle découvre son corps, il est en train d'intégrer que cette zone du corps fait du bien et quand on vient la solliciter, ça procure du plaisir. Ça construit notre sexualité d'adulte. Ça dure une certaine période. C'est le moment où, en tant que parent ou en tant qu'adulte, bien sûr, on peut reposer notamment ces notions d'intimité en se disant que notre corps et notamment certaines parties de notre corps, comme notre sexe, on ne les montre pas à tout le monde et du coup, on ne peut pas les solliciter devant tout le monde. Donc, en fait, on a le droit de toucher notre pénis ou notre vulve quand on est dans des endroits où on peut être tranquille, tout seul, tout nu. C'est, au final, c'est la notion d'intimité. Donc, dans notre lit, dans la salle de bain, dans les toilettes. Mais du coup, on se pose quand même la question dans les toilettes de l'école, parce que est-ce que c'est un lieu d'intimité ou pas ? Et notamment dans les toilettes de l'école, ça peut être un moment aussi où les enfants, là c'est pour rebondir sur la deuxième partie de la question, parfois
des jeux sexuels.
On retrouve des enfants qui vont être en train de se regarder de très près ou en train de se toucher mutuellement avec des touchers d'enfants. Donc c'est juste avec le bout des doigts et on regarde et on essaye de voir si le zizi c'est un peu dur. On pose la question au garçon, il y a quoi dans les boules ? On regarde comment il fait pipi. Pareil pour les garçons. Ça, alors l'idée c'est quand on est adulte et qu'on arrive sur une situation comme ça, de pas les engueuler, de pas crier, de pas leur interdire.
C'est naturel. Ça fait partie de leur développement.
Tout à fait. Il y a un moment, c'est un moyen d'apprendre comment fonctionne notre sexe. Donc, on peut poser les notions d'intimité. Et surtout, là, on peut rappeler le fait que notre corps, il est à nous et que à nous. Et qu'en fait, on décide qui le touche, qui le regarde. Et là, il y a des enfants qui, des fois, vont vous répondre. Mais en fait, je lui ai demandé à mon copain et il était d'accord que je regarde son zizi. Y a un moment, ils se sont posé la question. Ça fait partie de leur développement. Ils sont dans les toilettes de l'école. Donc, ils m'ont
Ils m'ont l'air d'avoir bien respecté tous les critères qu'on leur a posés. Là, dans ce cas-là, c'est... Bien sûr, on met un terme à la situation, mais plus on va être serein et tranquille dans la sexualité, plus ils vont réussir à se développer tranquillement et sereinement. Et ces deux notions, elles sont très importantes. Par contre, quand on tombe sur des situations où les enfants vont avoir des jeux sexuels, mais avec des pratiques qui sont dans le registre de la sexualité adulte, notamment des pratiques de fellation, ça, c'est pas dans le registre des enfants. Là, c'est le moment où... où nous, on doit s'alerter en tant qu'adultes. Toujours les mêmes réactions. On reste serein et tranquille. Là, on coupe court à la situation. Et là, il va falloir vraiment écouter les deux enfants et surtout celui qui a initié la situation, parce que s'il a ce registre-là, c'est qu'à un moment, il y a été confronté, ou il l'a vu, ou il l'a subi. Donc, en fait, c'est avec cet enfant-là qu'il va falloir travailler et avec l'autre enfant aussi délimiter les choses et remettre un petit peu... la sexualité des adultes à sa place. Enfin, les prendre en charge tous les deux, mais pas en pénaliser un plus que l'autre. Vraiment, prendre le temps de les écouter et être tranquille et serein. Parce que nos réactions, ne serait-ce que nos réactions corporelles, on renvoie beaucoup avec le corps et à des fois, on n'a pas encore ouvert la bouche, mais l'enfant, il a bien compris en fait, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, on peut lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on s'inquiète pour lui, en fait.
Oui, qu'il y a la question de la curiosité qui est normale, de la découverte. Et puis, lorsque c'est allé plus loin que ça, là, rappelez que là, certaines choses sont interdites. Et puis, ce que vous disiez, c'est qu'entre notion intimité et le fait de cacher, je crois que se toucher dans son lit, c'est pas pareil que d'induire, voilà, il faut se cacher pour faire ça, ou là, ça induirait aussi une autre idée que ça serait pas bien, voilà, de le faire.
Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de leur dire les... dans le lit, c'est un endroit où je suis tranquille, tout seul, tout nu. Mais ça pose aussi la question de la chambre, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas seuls dans leur chambre. Donc, leur lit, est-ce que c'est un lieu d'intimité ? Et oui, en fait, parce que souvent on dit la chambre, mais quand on a nos frères, nos sœurs dans la chambre, ou des fois même les parents, selon les conditions d'hébergement de chaque famille, c'est de se dire, leur lit, ça reste un lieu d'intimité. Donc, des fois, ça peut être un peu plus délicat. L'enfant arrive à repérer ces lieux d'intimité. Et parfois, ça peut être le salon, le week-end, le matin, quand tout le monde dort. Il y en a, du coup, qui vont aller petit déjeuner tout seul dans le salon, tout nu. Mais ça reste un lieu d'intimité. Ils sont tranquilles, tout seuls, tout nus, sur ce créneau horaire-là, en tout cas.
Une question qui revient souvent, Sonia, c'est quand en parler ? À quel moment ?
C'est une grande question. Mais je pense, en fait, on peut commencer à aborder ces questions-là tranquillement, juste en leur demandant des fois s'ils ont des amoureuses, des amoureux, de façon plus générale. Après, pour moi, c'est important de respecter le temps de chaque enfant. Chaque enfant, chaque ado est très différent, donc il n'y a pas de bonne réponse. C'est lui montrer qu'on peut en discuter et vraiment attendre aussi que les questions viennent de lui ou viennent d'elle. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup besoin de questionner, qui vont plutôt passer par des bouquins, par exemple. Donc, c'est de se dire, des fois, c'est acheter un bouquin et le mettre dans sa chambre, un bouquin adapté à son âge, et de se dire, là, ça veut dire qu'on l'autorise aussi à pouvoir discuter de ça, et on lui propose une source d'information qui est fiable. C'est vraiment très variable, cette question. Mais en tout cas, ça commence dès qu'on est bébé. En fait, juste dans nos actes, en fait, faire attention à lui.
La manière dont le bébé va être changé, etc.
Tout à fait, au moment du change. Et puis nommer, on peut commencer à nommer, même avant un an, quand on le change, à dire des fois on nomme le nez, les oreilles, et nommer le sexe, c'est une partie du corps comme les autres en fait, elle existe, donc lui donner sa place dès qu'il est bébé.
Ce que je dis souvent aux parents, c'est que ça fait partie de la vie, et du coup c'est des questions qui sont abordées dans le fil du quotidien, parfois lors d'un bain, parfois au moment d'un repas, parfois dans plein de moments de la vie du quotidien, qu'il n'y a pas besoin, on parlait des grands sermons, de se poser, de faire un conseil de famille pour parler de ces questions-là et de trop formaliser les choses qui, finalement, n'est pas toujours très, très approprié.
Mais et par contre, c'est quand même s'interroger sur soi parce que chaque personne a des limites. Il y a des choses qui peuvent nous gêner. Et parfois, on n'est pas disponible parce qu'il y a des enfants qui... Leurs questions, elles peuvent être très spontanées. Et on peut être en train de faire les courses ou au volant et puis la question arrive de... j'ai une question sur mon zizi ou comment on fait les bébés. Les petits, ils ont tendance à poser les questions à des moments qui ne sont pas forcément adaptés ou on n'est pas forcément disponible. Dans ce cas-là, c'est de pouvoir dire à l'enfant ou à l'ado, j'ai bien entendu ta question, je la trouve très intéressante. Je te propose que ce soir ou ce week-end, on se pose tous les deux ou toutes les deux et on en discute. Mais là, en fait, je ne suis pas trop disponible pour ça, donc je préfère, je la garde ta question et puis on en rediscute tous les deux plus tard.
En tout cas, Raphaël, vous nous disiez aussi que finalement, tout ça, ça avait été assez spontané pour vous parce que vous-même, vous avez reçu une éducation plutôt ouverte sur cette question de la sexualité et de la vie affective. Donc, en tant que parent, se poser aussi la question, comment on m'a initié à ces questions-là, qu'est-ce que j'ai reçu, pour pouvoir aussi détricoter et être un peu plus à l'aise, sont des choses qui peuvent aider. Vous avez aussi beaucoup souligné, Sonia, l'importance pour le parent de poser ses limites et de les respecter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, souvent, moi aussi, je dis aux parents d'éviter les fausses croyances. Parce qu'il y a souvent cette idée qui revient, mais si je lui en parle, ça va lui donner des idées. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Voilà, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des idées et pour se poser plein de questions. Donc non, ce n'est pas en leur parlant de sexualité qu'on va leur donner des idées.
Et au contraire, ça fait l'effet inverse, ça les tranquillise et ça les apaise avec ça. Mmh. Donc du coup, ils prennent leur temps parce qu'on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de se dépêcher, c'est tranquille.
Mmh, bien sûr. Vous avez souligné aussi, Raphaël, quelque chose qui me semblait important, c'est la cohésion et la cohérence au sein du couple parental. Oui. Voilà, que finalement, avec votre épouse, vous étiez assez raccord et que du coup, ça a été facile et soutenant pour chacun de vous. Donc l'importance aussi que les parents puissent se parler autour de ces questions-là, peut-être avant d'adopter une stratégie commune par rapport aux enfants. Bon, en tout cas, Sonia et Raphaël, tous les deux, vous nous avez dit à quel point c'était important, voilà, de parler de sexualité aux enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. Voilà, et que leur parler de sexualité, c'est leur parler de leur corps, de leurs émotions, de leurs sentiments, et puis de la relation à l'autre. Que l'éducation à la sexualité participe évidemment à leur bien-être, à leur développement, à leur autonomie en tant que personne, avec des envies et des besoins qui sont propres. Et puis, la sexualité, elle est vecteur d'égalité, de santé sexuelle, de bien-être, de développement de soi, comme je viens de lire. Donc voilà, c'est vraiment essentiel. Il faut que les parents osent y aller et y aller tranquillement. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Alors Raphaël, est-ce que vous avez lu quelque chose, ou peut-être est-ce que vous avez un conseil ou une vidéo ou quelque chose à recommander aux parents qui nous écoutent ?
Non, j'ai pas de conseil. J'ai pris conseil quand j'ai acheté des livres à ce moment-là pour mes enfants. Ce qui a été dit tout à l'heure sur l'adaptation à l'âge est très important. À l'âge où on a offert ces livres à nos enfants, en fait, ils avaient plutôt des questions sur leur corps que sur la sexualité. Donc c'était avant tout des choses pour découvrir son corps. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment que l'important, c'est soit que sur la base de livres ou pas de livres, ce soit eux qui posent la question. Mmh. Et qu'on puisse rebondir dessus, puisque là, on est sûr d'être dans le bon timing, puisqu'en fait, on est sûr qu'ils sont intéressés par le sujet et qu'on n'est pas en avance ou en retard. Donc, c'est presque la seule certitude que j'ai sur ce sujet.
Merci, Raphaël. Sonia, est-ce que vous avez des livres à nous recommander ?
Alors, il y a quelques ouvrages, notamment sur la sexualité des tout-petits. Il y a « Ma sexualité de 0 à 6 ans » de Jocelyne Robert. C'est un petit bouquin avec plein d'exercices que le parent peut faire avec son enfant. Ça explique pour le parent, ça rassure beaucoup. Mmh. C'est un livre qui est très adaptée pour les enfants. Elle l'a fait sur plusieurs tranches d'âge, donc moi je les conseille vivement. En fait,
elle a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Parlez-leur d'amour et de sexualité ».
Oui. Oui, oui.
L'éducation sexuelle s'apprête, voilà.
Tout à fait.
Très intéressant, très accessible sur toutes ces questions.
Donc vraiment, tous ces ouvrages, je les conseille fortement. Après, pour les plus grands, notamment au niveau du lycée, là où parfois ça peut être un peu plus dérangeant, il y a un ouvrage qui est très bien fait qui s'appelle « Make Love ». Ça explique sans tabou, sans stéréotype, sans idée reçue, tout sur la sexualité. Ça répond aux questions. Donc les ados peuvent vraiment piocher dans cet ouvrage-là. Après, il y a les séries aussi. Nos ados, ils regardent beaucoup de séries. Et notamment, il y a la série actuelle, la Sex Education, qui, sincèrement, passe des messages très positifs sur la sexualité, donne des bons et des vrais conseils, à mon sens, sans idée reçue. Et puis en plus, elle suggère, à la fois elle répond clairement. Enfin, moi, je la trouve très bien faite, en fait, pour nos ados. Et puis on parle des ados, mais pour les adultes aussi, parce que parfois, les ados sont un peu plus calés que les adultes. En tout cas, ils osent poser leurs questions. Non, c'est une série qui peut être conseillée aussi pour les ados. Du coup,
ok. Merci beaucoup, Sonia Lebreuilly, d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu témoigner et partager avec nous toutes vos questions et vos doutes sur la manière dont vous avez accompagné et vous continuez d'accompagner vos enfants sur cette question de la sexualité. Merci à tous les deux.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.